Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
Ici Hélène.
Et Mélanie. Hello.
Hello.
Excusez-moi.
Pour vous raconter des histoires horribles.
Oui, on a arrêté de faire l'intro, ce qu'on dit qu'on n'est pas des enquêteurs,
oui,
puis
c'est
des
vrai.
Policières, des...
Mais depuis, j'ai fait un bac en droit, non.
Oh, God!
Avec mon bébé dans les bras, non.
T'es deux bébés.
Mes deux bébés.
Non.
Ben non, on n'est toujours pas avocate, ni enquêtrice, ni journaliste.
Enquêtrice?
Enquêteuse? Enquêteur.
Enquêteur, moi j'aurais fait.
Je sais pas.
Bon.
Maintenant, on a le droit de dire des tristes partout, genre autrice. Avant,
ah oui,
ça se disait
vrai.
Pas.
Et petite information qu'on a à donner. Je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais on a fait une petite collab avec les filles de Crime Glacé. C'était full le fun.
Oui, c'était vraiment le fun.
C'était extrêmement gênant parce que c'était filmé et on n'était pas... Ben, en tout cas, pour ma part, j'étais absolument pas à l'aise.
Imaginez, mais elle n'est pas à l'aise d'entendre sa voix. Fait que se voir, se voir sur caméra, c'est pas son fort non plus.
Oh, j'ai vraiment pas aimé ça. En plus, j'avais Navy avec moi, mon bébé de 6 mois, qui était assis à côté de moi. Ben, assis, il était dans sa coquille, puis je le brassais tout le long parce que j'avais peur qu'il se réveille. Puis je voulais pas déranger les filles. Donc, on voit ma tête qui shake tout le long. Genre qui se tasse vers la droite parce que je suis en train de shaker Navy. Fait que bref.
Fait que si mais vous voulez voir le vidéo, on l'a mis sur notre Patreon. Donc, pour les bins de luxe,
vous y avez accès.
Vous y avez accès. Et sinon, ben, juste l'épisode, l'audio, il est sur le feed de Crime Glacé.
Oui.
Vous pouvez aller l'écouter gratuitement sur toutes les plateformes.
Puis sinon, vous pouvez acheter la vidéo aussi individuellement si vous tenez absolument à voir nos tronches.
Ouais, avoir Mel brasser son bébé.
Eh oui. Ah, j'étais tellement self-conscious. Tu sais, quand on s'assoit, on a tendance à mettre les épaules vers l'avant puis genre avoir le dos recourbé.
Ouais.
Puis à chaque fois que je me retournais à gauche puis je voyais la caméra, je me redressais le dos tout le temps. Ah, j'étais pas bien. Mais les filles étaient super fines, ça s'est super bien passé.
C'était vraiment le fun. C'était comme un deux vérités, un mensonge. Puis là, il fallait trouver c'était lequel le mensonge, puis Mel, elle l'a trouvé.
Ah, bien sûr.
Je vous ai dit punch.
Oups, c'est vrai.
Mais bon, mon esprit, c'est laquelle.
Mon esprit compétitif et voilà, a remporté.
Fait que bref, c'était vraiment cool. Fait que merci aux filles de Crime Glacé. Puis c'est sûr qu'on va recommencer l'expérience éventuellement. Oui. C'était vraiment le fun.
Et nous, on va les inviter cette fois.
C'est ça. Prochaine fois.
Si vous voulez filmer à chaque fois, je suis pas bien. Je suis pas bien. En tout cas, bref, on aura cette discussion-là hors onde.
Voilà. Sinon, j'ai un petit potin.
Vas-y donc.
Ben quand même, pas pire potin. Tu sais, dans le dernier épisode, le pasteur, on se demandait si M. Steele était en liberté.
Mm-hmm.
Ben, on a su entre les branches qu'il était en liberté conditionnelle dans la région de Montréal.
Oui. Tu me fucking. Tu me niaises.
Je te niaise pas.
Tu me niaises.
De sources assez sûres. Ouais. C'était pas rassurant. Fait que si votre ma tante a date un gars qui s'appelle Raymond Steele.
Run.
Ouais.
Cours. Oh mon Dieu. OK. Et il me semble que tu m'avais dit que tu avais un petit shout-out à faire aussi.
Oui, j'ai un petit shout-out à Estelle, l'amie de mon neveu Kevin.
Celui qui t'a coupé les cheveux.
Celui qui m'a coupé les cheveux. Oh. Son amie, elle aime full notre podcast. Fait que... J'ai dit que je ferais un petit shout-out.
Puis t'as full fait une belle coupe de cheveux en plus.
Oui, vraiment.
C'est genre ta meilleure coupe de cheveux à vie.
Vraiment.
Ça te fait vraiment bien. Si vous voulez aller voir sur la vidéo, elle a laissé beaux cheveux coupés par Kevin.
Ouais.
Ok, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui?
Ok.
Tu me l'as-tu dit? Non.
Non. Sinon, je te l'ai pas dit. Je l'ai intitulé La top modèle.
Ok. Toujours aussi fan de tes titres.
Alors, mes sources, un documentaire sur Crave qui s'appelle « Qui a tué Marie-Josée », des articles de BNQ La Presse et le site de Teresa Allure. Il y avait comme... C'est nice, il y a comme résumé l'histoire, puis il y avait mis plein de photos des articles de Allopolis. Je sais pas où ils ont trouvé, parce que les Allopolis, genre, on n'a pas accès aux archives. Fait que je sais pas où ils avaient trouvé ça, mais merci.
Wow. OK.
Alors, je t'emmène. En 1982, au 246 23e rue, East Side à Manhattan, New York. Katie O'Reilly est chez elle avec son ex-copain Jamie Gillis. C'est son ex, mais il était encore en bon terme. Puis là, Jamie avait besoin d'une place où cracher à New York. Fait qu'elle avait dit « viens chez nous ». Et fun fact, Jamie Gillis avait récemment trouvé sa nouvelle vocation. Acteur de porno.
Ça commence bien.
Et sa carrière allait très, très bien. Même qu'il était surnommé le De Niro de la porn parce que son acting, il jouait vraiment bien en plus de performer sexuellement.
OK. Mm. Ce qui est quand même rare chez les acteurs.
Oui, c'est ça.
Les acting skills sont bons.
À vers 1h du matin, dans la nuit du vendredi 18 juin, Jamie arrive chez Katie un petit peu plus tard et quand il rentre dans l'appartement, il dit à Katie qu'il est un peu inquiet parce que dans l'entrée en bas, il a vu les souliers blancs à talons hauts de la voisine. Puis c'est comme vraiment bizarre, là, dans l'entrée en bas, puis Marie-Josée, la voisine, elle habite genre au 4e étage, eux sont au 3e. Fait que c'est juste vraiment pas habituel. Puis Katie, justement, avait les clés de chez Marie-Josée, parce que les deux s'entendaient bien, puis elle avait les clés de l'appartement s'il fallait le checker quand elle n'était pas là. Hein? Fait qu'ils se sont dit, OK, ben on va aller voir que si tout est correct. Fait qu'ils s'en vont, ils montent au 4e étage, puis là, ils arrivent, la porte est entrouverte.
Ah!
Fait que là, ils commencent à l'ouvrir, puis là, dans ce qu'ils voient, il y a comme un petit peu désordre, pas si pire, mais mettons, le téléphone, il est comme par terre, puis il est décroché du combiné, t'sais. Le combiné est décroché. Là, il ouvre un peu plus la porte et là, il voit dans le couloir Marie-Josée qui est par terre avec du sang. Puis Katie a dit la façon dont ses jambes étaient pliées, elle a comme su tout de suite qu'elle était morte. Parce qu'elle avait comme une jambe un peu dans les airs. Elle était comme dans le couloir. C'est comme si elle était tombée par terre comme contre le mur dans le couloir. Un peu là, comme entre les deux murs. Fait que tout de suite, ils ont fait, OK, genre, ils sont retournés chez eux, ils ont appelé la police. Donc, la scène de crime. Les policiers arrivent sur la scène, puis ils constatent que Marie-Josée était poignardée au thorax et au cou. Elle avait des blessures de défense sur les bras. Donc, il y a eu une bagarre, puis elle s'est défendue. Elle était encore toute habillée, sauf ses souliers blancs qui étaient en bas. Et il n'y avait aucune trace d'agression sexuelle, puis à l'autopsie non plus, aucune trace, pas d'agression sexuelle. Il n'y a pas d'entrée par effraction non plus. Puis, tu sais, pour rentrer dans l'immeuble, il faut que tu aies la clé en bas, puis après ça, tu montes 4 étages, puis il faut que tu aies la clé de chez Marie-Josée. Puis quand elle devait ouvrir à quelqu'un, elle descendait jusqu'en bas, elle regardait par la petite fenêtre, puis après ça, elle ouvrait la porte. Puis elle
avait... Tu devais pas buzzer d'en haut, mettons.
Non, c'est ça.
OK, fait que tu y ailles.
Ouais, fait que... Puis elle ouvrait pas aux étrangers, là. Fait que... sont sûrs qu'elle connaissait son agresseur, ben, son tueur. Puis rien n'a été volé, elle avait encore son portefeuille avec de l'argent à l'intérieur. Fait que, pour le détective en charge de l'enquête, tout de suite, la scène de crime, elle leur dit qu'elle connaissait son meurtrier et c'était pas prémédité. Ils pensent pas que ce meurtre-là avait été prévu parce que la personne qui a fait ça, on dirait qu'elle a juste pété une note sur le cou. Quelque chose de guidé par l'émotion. T'sais, c'était avec un couteau sur le cou, elle s'est défendue. T'sais, c'était pas genre arrivé par derrière, prévu mon cou. Non, non. T'sais, ça avait l'air d'être un peu n'importe quoi. Et... par rapport au cilier, une des théories d'un enquêteur, c'est que ce serait le tueur qui aurait pris les souliers et qui les aurait mis en bas. Comme ça, les voisins, justement, se seraient posé des questions et seraient allés voir Marie-Josée. Fait qu'il y a comme peut-être un soupçon de regret, de remords puis de désir que le corps soit retrouvé vite.
OK. C'est quelqu'un qui tenait la victime sans...
Ça, c'est la théorie des enquêteurs, mais je suis vraiment d'accord avec leur théorie.
OK.
Tu vas voir plus tard. Sinon, les policiers, ils retrouvent pas d'empreintes, pas de traces de pas, comme il n'y a pas de preuves physiques. Puis, tu sais, l'ADN à ce moment-là non plus, c'était pas 82, c'était un peu tôt, là. Donc, ça va être vraiment un cas circonstanciel.
OK.
Là, les enquêteurs, ils en apprennent aussi un peu plus sur la victime. Donc, il s'agit de Marie-Josée Saint-Antoine, une Québécoise de 23 ans. Mais c'était pas n'importe qui. Marie-Josée était d'une beauté hors norme et elle avait une carrière de mannequin international. Oh. Elle était sur les couvertures des grands magazines à travers le monde. En France, en Allemagne, en Italie, États-Unis.
Name it.
Name it. Donc, je te parle un peu de Marie-Josée avant d'aller plus loin. Marie-Josée est née en 1958 à Montréal. Elle grandit dans une famille aisée à Ville-Mont-Royal, quartier quand même...
aisée.
Cossu. Oui.
Cossu.
Cossu.
OK.
Elle a un petit frère, Jean-Luc, qui a 4 ans de moins qu'elle et de qui elle est vraiment très proche. En grandissant, ça devient son confident. Elle est aussi très proche de ses parents, Guy et Denise. Marie-Josée, elle, elle a étudié au Collège Brébeuf, ensuite en relations publiques au Collège Loyola et à l'Université de Montréal. Elle a aussi fait le Conservatoire en art dramatique. Comme mon chum.
Ouais.
Elle adorait faire du sport, n'importe quel, du ski, du tennis, de la natation, tout, là, vraiment sportif. Et elle était aussi magnifique. Elle avait des cheveux bruns, des grands yeux bleus. Attends, je vais te montrer une photo.
Ouais. C'était ma prochaine question. Oh, wow, OK. Ça fait tellement années 80, oui. Années 70. Elle est vraiment magnifique.
Vraiment.
Crément, on a fait des couvertures de...
Oui, vraiment, là. Elle s'en venait vraiment bien.
C'est drôle, j'en avais jamais entendu parler.
Donc, c'est ça, elle était vraiment belle. Et tout le monde lui disait tout le temps qu'elle devrait tenter de devenir mannequin, tellement qu'elle était belle. Ceci dit, je voulais mentionner que son frère aussi, il était vraiment chics.
OK.
Il n'y a quand même pas de photos de lui, mais dans le documentaire, on le voit, puis on voit des photos de lui jeune, genre. Puis je suis comme, OK, ses parents-là, ils ont fait, ils ont fait des beaux enfants, là. Vraiment. Lui aussi, il avait des grands yeux bleus. Puis même, genre, dans le documentaire, il parle, puis il est quand même plus vieux, là, genre dans la soixantaine, je pense.
Mm-hmm.
Puis tu le vois que c'était quand même un bel homme, là, ouais. Tu sais.
À la base, les cheveux bruns aux yeux bleus, c'est quand même plus rare.
Ouais, c'est ça. Donc, OK. Sinon, une de ses bonnes amies d'enfance, Chantal Blais, elle dit que Marie-Josée, tu sais, oui, était belle de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, que c'était vraiment, vraiment une belle personne. Elle décrit comme étant un peu réservée, mais en même temps assez sociable, puis qu'elle attirait vraiment les gens vers elle avec son sourire. C'était un vrai rayon de soleil. Elle était lumineuse, simple, heureuse.
Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé?
Finalement, à l'âge de 18 ans, elle décide d'essayer le mannequinat pour vrai, à force de se le faire dire. Elle va voir une agence de Montréal qui la prend. Et là, elle va faire son premier gros shooting photo dans l'Ouest canadien. Puis après ça, tout de suite, là, ça décolle.
Ça pogne.
Fait que sa carrière est lancée d'un coup. Et elle décide d'aller vivre à New York parce que c'est vraiment là que ça se passe. Mm-hmm. Fait qu'elle part vivre à New York alors qu'elle n'a que 18 ans.
Comment? La même année, OK.
Gros move, là. À 18 ans. Et puis une anecdote cute que son frère Jean-Luc il raconte dans le documentaire, c'est que elle a fait sa première sauce à spaghetti avec sa mère au téléphone qui lui disait quoi faire. puis sa première sauce, elle l'a brûlée finalement.
Classique. Classique.
Très cute. Et fait intéressant. Son appartement coûtait 900$ par mois.
En 1982.
Ta. C'est beaucoup.
C'est
là.
Beaucoup, ouais.
C'est fou à quel point New York, c'est cher depuis longtemps. Là. Ça m'a fait capoter. Hein? J'ai essayé de googler, genre, c'est combien 900$ ouais. en dollars d'aujourd'hui. Ouais. Puis ça serait comme 3 000$.
Pour genre une chambre au quatrième étage.
Ouais, c'est ça. T'sais, je sais pas si c'était gros comment. Là. Peut-être un 3,5, 4,5 maximum. Mais c'était pas luxueux, là, ce qui paraît. C'était bien normal comme appart. Là, t'sais. Voilà. Donc, elle vit la grosse vie, elle se promène entre New York, Paris, Montréal. Mais elle trippait vraiment pas sur New York, en fait. Elle avait vraiment peur. Puis
avec raison.
Ouais, avec raison.
C'est qu'est-ce qui t'arrivait?
Puis en plus, New York, dans les années 80, là, c'était vraiment dangereux, pour vrai. Ouais. Vraiment, vraiment. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là. C'était vraiment pas sécuritaire comme ville. Fait qu'elle faisait tous ses déplacements en taxi. Puis même que... des fois, elle avait peur des chauffeurs de taxi. Fait qu'elle demandait tout le temps d'être déposée comme un petit peu avant sa maison. Tu sais, comme pas devant sa maison, pas qu'il voit où elle habite.
Ben voilà.
Fait que, elle était vraiment prudente, là. Comme vraiment, vraiment.
Et ça n'a pas le bon sens de vivre dans la peur de même tout le temps.
Ouais, c'est pas
chiant. T'es obligé de prendre des précautions, peu importe ce que tu fais. Aïe.
Puis, oui, même que 2 semaines avant de se faire tuer, elle a vu un gars se faire poignarder devant chez elle. Elle l'a vu par la fenêtre, là.
Comment on sait ça?
Elle l'a dit? Oui, elle l'a raconté à Justin. Oh my God. Mais bon, pour sa carrière, c'était quand même la bonne décision parce que elle finit par être prise dans une grosse boîte de mannequins. Ça s'appelait Elite Model Management Corp. Ça, c'était comme un peu moins qu'un an avant son meurtre. Et avec eux, là, sa carrière internationale explose complètement. Elle était dans les gros événements, les gros parties, mais elle trippait pas tant sur tout le jet set puis tout comme ça.
Ça me surprend pas de sa personnalité.
Non, c'est ça. Elle était plus que
terre à terre.
Ouais, simple, genre, elle était pas impressionnée par ça, je pense. Fait que, elle préférait, quand elle pouvait, elle retournait tout le temps à Montréal, voir sa famille, ses amis. Genre, c'était vraiment ça qui était important pour elle, tu sais. Même que des fois, elle retournait à Montréal toutes les fins de semaine, genre, quand elle avait pas de contrat puis qu'elle pouvait. Mais des fois, à cause des voyages, là, ça arrivait qu'elle retournait moins souvent, mais tu sais, c'était vraiment ça, sa priorité. Donc, même si elle jouait moins la game du PR jet set, là, tu sais, elle réussissait quand même bien dans son travail parce qu'elle travaillait vraiment fort, elle était vraiment professionnelle. Puis, tu sais, tout le monde qui la connaissait dit qu'elle jouait vraiment pas la vedette, là. Tu sais, elle restait une fille comme super simple. Puis en fait, elle était tellement pas vantarde qu'il y a une connaissance qui l'avait croisée dans une soirée à Montréal, comme quelques semaines, mois avant le meurtre. Puis ils ont jasé vraiment longtemps, genre 40 minutes, leur vie, comment ça va, là. Puis le gars, il dit, elle a même pas mentionné à quel point ça allait bien, ses affaires de mannequinat, genre. Il avait aucune idée qu'elle était, genre, sur les couvertures de magazines partout dans le monde, là. Puis c'est fois qu'elle est morte qu'il s'est rendu compte à quel point qu'elle était big, genre.
Hein?
Fait que, elle s'en vantait juste super vraiment modeste. Pas. Ouais, vraiment. Bref, elle était vraiment tannée de vivre à New York. Elle aimait pas sortir, elle aimait pas la vie de jet set, puis elle avait peur. Fait que, tu sais, aucun avantage pour New York à part sa job. Puis elle voulait éventuellement revenir au Québec. Elle économisait de l'argent pour acheter une maison dans les Laurentides à ses parents pour les remercier de son éducation, puis tout. Tellement cute.
Elle devait avoir des défauts, mais
à date, pas mal parfaite, la
fille. Pas mal parfaite. Ouais. En plus d'être magnifique.
Oui, c'est ça.
Aïe.
Ça me fait penser à Dan.
Ah, ouais.
On a une amie de même qui est juste tellement belle de l'extérieur et de l'intérieur, ouais. Tellement simple, tellement. Puis justement, elle a fait des contrats.
Elle a fait du mannequinat.
Oui, elle en a fait un peu. Ouais. Ouais.
Allô, Dan.
Allô, Dan. Oui, je sais pas si elle nous écoute encore. Un petit peu. Je sais pas.
Au Guinée.
Donc, la dernière journée de Marie-Josée. Alors, on retourne à l'enquête. Les enquêteurs, y arrivent à reconstituer les derniers 24 heures de Marie-Josée. Donc, le mercredi 16 juin, il y avait une soirée organisée par son agente, là, Elite Model, au bar Xénon. Fait que les policiers se sont dit « Ah, peut-être qu'elle a rencontré le meurtrier là, puis qu'il aurait pu la suivre à son appartement après. » Mais finalement, il écarte cette théorie-là parce que le lendemain matin, elle avait un shooting photo, puis elle s'est présentée, comme d'habitude, de bonne humeur, tout allait bien.
OK.
Fait que le 17 juin, on sait qu'elle est allée à son shooting photo comme prévu, puis elle aurait quitté le shooting photo vers 15h. Puis vers 16h, l'actrice Kim Delaney, qui est quand même un peu connue aujourd'hui, qui n'était pas encore à l'époque, je pense, ben elle connaissait Marie-Josée, puis ils se sont croisés dans la rue vers 16h. Puis Marie-Josée était en compagnie d'un homme qu'elle n'a pas présenté à Kim. Mais par après, Kim a fait un portrait robot avec la police de l'homme qu'elle a vu avec Marie-Josée. Ensuite, on sait que ses parents ont essayé de la rejoindre au téléphone à partir de 18h, mais la ligne sonnait toujours occupée. Donc, le téléphone était déjà décroché. Ça veut dire que elle serait morte entre le temps qu'elle est arrivée chez elle puis que ses parents l'appellent. Ça laisse vraiment pas un gros moment. Fait que les policiers pensent que c'est vers 17h, 17h30, là. Ah oui, puis ses parents, ils essaient de la rejoindre parce qu'elle devait venir à Montréal pour la fête des pères. Cette fin de semaine-là.
Oh.
Ah oui, et là, un autre indice. Les policiers trouvent un post-it sur la boîte aux lettres de Marie-Josée en bas de l'immeuble. Le post-it, il est écrit en français, puis ça dit...
En français?
Oui, puis ça dit « Marie-Josée, appelle tes parents, ils essaient de te rejoindre ». Donc, ce post-it-là les amène à leur premier suspect, Dominique, l'ex de Marie-Josée.
Oh!
Évidemment.
Ouais.
Un ex, c'est sûr qu'il est le premier sur la liste. Dominique Silberstein, c'était un photographe français qui travaillait dans le domaine de la mode. Donc, lui et Marie-Josée s'étaient rencontrés justement par le travail 3 ans auparavant, puis ils avaient éventuellement commencé à se fréquenter. selon la voisine, Katie, qui l'a découvert, elle dit que la relation semblait assez houleuse parce qu'elle les entendait quand même se chicaner de temps en temps. Et beaucoup de up and down. Il y a une fois où Marie-Josée était vraiment fâchée, puis elle a jeté sa boîte de pilules contraceptives par la fenêtre, puis c'est tombé dans le bac à fleurs de la voisine d'en bas. C'est quand même un drôle d'anecdote.
OK.
Et selon les amis de Marie-Josée, les deux s'étaient laissés comme 2 semaines avant.
OK.
Puis, ben, selon certains, c'est Marie-Josée qui l'aurait laissé pour, mettons, lui donner un coup de pied dans le cul pour qu'il elle l'aimait encore, mais comme, gère-toi un peu. Puis, Mais la version de Dominique, c'est plus, ben, c'était pas tant une rupture officielle. Tu sais, les deux, on voulait se laisser de la distance. Puis il dit que sont restés en très bons termes et que la dernière fois qu'il lui a parlé, c'est l'après-midi du mercredi. Donc, la veille du meurtre, ils se sont vus, se sont parlé. Puis, il était aussi à l'événement au Xénon la veille du meurtre, mais qu'ils se sont pas vraiment parlé parce que les deux, comme ils travaillaient, ou c'était plus job.
C'est un mannequin aussi?
Oui, c'est un photographe de mannequin. Ouais. Et l'histoire du post-it, ben il dit que le jeudi, la journée du meurtre, il est passé vers 17h. Après 17h, excusez-moi. Bon, donc, le jeudi, passé 17h, c'est génial. Il essayait de l'appeler quelques fois, mais la ligne sonnait déjà occupée. Puis là, vers 19h30, il est passé par chez elle parce que son studio, il était vraiment proche de chez elle. Donc, il a sonné, mais ça répondait pas. Il est même allé en face à genre, la cabine téléphonique pour essayer d'appeler. Ça sonnait occupé. Donc, il est allé travailler à son studio. Puis là, dans la soirée, il a parlé aux parents de Marie-Josée qui n'arrivaient pas à la rejoindre non plus. Ouais. Fait qu'après ça, il est repassé à l'appartement vers 22h45. Puis c'est là qu'il a mis le petit post-it disant comme « Tes parents essaient de te rejoindre. Okay. » Appelle-les. Donc.
À date, il est pas louche.
Non. Fait que... Et en plus, il a un alibi béton. Il était dans un shooting photo toute la journée. Plusieurs personnes l'ont vu. Puis tu sais, l'heure où il serait parti... Elle était déjà morte. Fait que c'est ça.
Okay. Ça concorde pas.
C'est sûr que c'est pas lui. Puis même comme signe de bonne foi, il passe un polygraphe.
OK.
Fait qu'il est éliminé de la liste des suspects. Suspect numéro 2. Jamie Gillis. Le De Niro de la porn. Le voisin. Donc, les policiers le trouvent que c'est un suspect intéressant parce que, c'est lui qui a trouvé le corps. Il parlait français.
Oh.
Bon. Donc, il parlait quand même souvent avec Marie-Josée, mais se pratiquait son français avec elle. Et selon les policiers, il était très nerveux quand ils sont arrivés. En même temps, tu viens de trouver un corps, je pense que je serais nerveuse aussi. Tu sais, Katie, elle avait les clés de l'appartement. Fait que, logiquement, lui, il avait.
Il était accès. Déjà à l'intérieur. Ouais,
donc, il aurait eu accès à son appartement s'il avait voulu.
OK.
En plus, le portrait robot qu'ils ont fait avec Kim Delaney, il ressemble un peu à Jamie Gillis. Et, oui, puis là, quand il fouille son appartement, ben là, il trouve des menottes puis des trucs de BDSM, mais tu sais, il était dans la porn.
C'était la porn.
C'est pas étonnant, là. Mais bon, tu sais, 1982, les policiers trouvent ça, sont comme, c'est sûr que c'est un homme qui peut tuer.
Ceci explique cela.
Donc, il l'interroge assez intensément. Fait que, Jamie, il dit son horaire du temps de la journée du 17 juin, il a pris le train de 15 heures pour revenir vers Manhattan. Je sais pas de où, par exemple, j'ai pas cette information. Ensuite, il est allé prendre un verre à Penn Station, puis il a pris le métro pour rentrer chez lui. Ce qu'il place pas mal dans l'immeuble au moment du meurtre. Puis après ça, il serait ressorti puis rentré plus tard. Bon. Donc, il est suspect, mais en même temps, là, ils n'ont rien de plus sur lui. Donc, il reste sur la liste, mais sans plus. Il continue à regarder d'autres choses.
Il l'élimine pas.
C'est ça.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Suspect numéro 3. Alain Monpetit, a.k.a. le roi du disco. Tout le monde a des surnoms là-dedans.
C'est quoi ça?
C'est
malade.
C'est comme, pour vrai, cette soirée, on dirait que c'est des personnages ouais. comme, que tu verrais dans une série. Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, c'est la vraie vie. Donc, Jean-Luc, le frère de Marie-Josée, quand il parle aux enquêteurs pas longtemps après, il dit « Hey, j'ai reçu un appel de quelqu'un avant que vous nous appeliez. » Mais ce que je comprends du timeline,
vas-y,
c'est que la nouvelle était sortie qu'elle était décédée. Jean-Luc était déjà arrivé chez ses parents comme « Oh mon Dieu, elle est décédée. » Mais les enquêteurs de New York ne les avaient pas encore appelés comme pour
information,
dire plus, jaser plus longtemps. Mm-hmm. Nan, nan. Donc, avant cet appel-là des policiers, Alain Monpetit a appelé chez la famille de Marie-Josée pour dire « Mon Dieu, Marie-Josée est morte, mes condoléances. » Puis il dit « Ah, je suis à New York. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Voulez-vous que j'aille identifier le corps? » Là, Jean-Luc est comme...
Secondes, là, ça fait une heure, ça fait une minute qu'elle est morte.
Ouais, puis c'est pas un ami proche de la famille. Ouais. Genre, il connaissait Marie-Josée, mais il connaissait pas dans la famille. C'est que, OK, non, on veut pas que ce soit toi qui aille voir le corps. Puis de deux, qu'est-ce que tu fais à New York? Marie-Josée, elle m'avait dit que t'étais genre en cure de désintox en Europe. Fait que tout ça est très weird. Puis en plus, quelques jours, genre 4 jours plus tôt, Marie-Josée a parlé à son frère, puis elle avait, en parlant d'Alain Monpetit, elle a dit « Ce gars-là, il est vraiment weird. » Donc voilà, l'appel... Oui, et tout cet appel-là s'est déroulé pendant que Claude Poirier était chez la famille. Évidemment, Claude Poirier
est tout le temps là. Il est tout le temps là.
Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas lui qui va aller identifier le corps, évidemment. C'est le pauvre Jean-Luc, qui est genre, lui, il a genre 19 ans à ce moment-là. Il avait genre 4 ans de moins qu'elle. Fait que c'est lui qui sera en New York pour aller identifier le corps de sa soeur. Là. C'est beaucoup pour ses jeunes épaules. Fait que là, les enquêteurs, ils entendent ça, ils sont comme, OK, pourquoi ce gars-là, qui connaît vaguement Marie-Josée, il veut s'immiscer dans l'enquête, dans
il
la famille?
Il se tire dans le pied, je trouve.
Ouais. Fait que je te parle un peu de Alain Monpetit.
Le roi du disco.
Ouais, parce que c'est pas n'importe qui, lui, non plus.
OK.
Alors, Alain Monpetit, c'est le petit-fils d'Édouard Monpetit, la station de métro de la ligne bleue.
OK.
Puis, c'était pas juste une station de métro. Le gars, j'ai regardé comme, qu'est-ce qu'il a fait, Édouard Monpetit? Je le sais pas. C'était le fondateur de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Montréal.
OK.
Donc, son grand-père, super connu, et son père était juge à la Cour supérieure du Québec.
Pas une famille de merde.
Pas une famille de merde, non. Et il était lui-même une vedette. C'était un animateur de radio et de télé, en plus d'être acteur.
Et meurtrier.
Potentiellement meurtrier. Et c'était vraiment une vedette, là, tu sais. Il se pointait, genre, quand, mettons, une discothèque faisait un événement, ben là, il se pointait comme pour faire le DJ. Puis les gens capotaient, tu sais. C'est comme, Alain Monpetit va être là. Les gens allaient pour ça, là.
OK.
Puis c'était pour ça que c'était le roi du disco, parce qu'il allait dans les soirées disco. Mm. Apparemment que Montréal, à l'époque, était une plaque tournante du disco. Je savais pas.
Dans les années 70?
Ben là, c'était 82. Fait que ouais, c'était comme fin après 70, mais c'était encore un peu de disco. Donc Alain, c'est quoi son lien avec Marie-Josée? Ben, il fréquentait une bonne amie de Marie-Josée, nommée Paul Charbonneau. Mais... T'sais, c'était pas le meilleur catch pour Paul parce que, ben Alain, ben, c'était vraiment un séducteur. C'était un beau bonhomme connu, nanana. Puis il était vraiment courroyeur.
OK.
Mettons qu'il n'y avait pas le mot « fidélité » tatoué dans le front.
OK.
Et pas le mot « fiabilité » non plus. Parce que Paul, elle raconte que des fois, tu sais, elle l'attendait pour 8 heures le soir, puis il arrivait genre à 8 heures le lendemain.
OK. Puis elle dit, 12 heures de retard.
Ça arrivait souvent. T'sais. OK. Fait que c'était plus genre, ben, tu sais, elle habitait dans les Laurentides, elle. Fait que c'était plus comme, ah, oh, lui, des fois, il se pointait pour l'avoir, puis après ça, il disparaissait pendant une couple de jours, puis
tu sais. OK.
Fait que Marie-Josée, elle avait encouragé Paul à le laisser. Parce que c'était pas une relation saine. Et Paul, elle a fini par écouter les conseils de Marie-Josée, puis justement, quand elle a pris la décision de le quitter, elle se pointe pour lui dire, puis elle le surprend avec une autre femme. Donc, elle, ouais. elle avait pris la bonne décision.
Ça, ouais, c'est ça, ça confirme qu'elle avait pris la bonne décision. C'est ça.
Donc là, Alain, qui se fait laisser par Paul, qui malgré tout, qui l'appréciait vraiment, vraiment beaucoup, même s'il courait ailleurs, il est vraiment pas dans une bonne passe personnelle à ce moment-là, parce qu'il y avait aussi des problèmes de consommation.
C'est ça que j'allais dire. C'est sûr, ça vient avec un problème de drogue, ouais, d'alcool.
C'est ça. La vie de disco, c'est ça. Là, fait que
70-80.
Fait que beaucoup de cocaïne et d'alcool. Il avait même promis d'aller faire une cure de désintox en Europe. Mais là,
pas longtemps. Il est allé ou il est pas allé?
Il est pas allé.
Ok, c'est ça.
Puis là, il pète une note, puis il se met à harceler Paul, puis il l'appelle sans arrêt pour qu'elle revienne à lui. Puis en fait, une nuit, il l'aurait appelé 15 fois pour la supplier de le reprendre. Et la 16e fois, c'est Marie-Josée qui a répondu, puis elle a dit comme, là, tu vas la laisser tranquille.
Aïe, aïe. C'est pas les téléphones dans ce temps-là, c'est pas ton cell que tu peux mettre sur silencieux ou que tu peux bloquer. Non, là, c'est ton téléphone de maison qui sonne.
Ouais. Ouais, rendu là, tu le décroches, là.
15 fois, ouais.
D'ennui, en plus. Et ça, c'était pas longtemps avant le meurtre. Je sais pas exactement quand, mais tu sais, tout au plus quelques semaines ou sinon quelques jours, tu sais.
Oh, OK.
T'sais, c'était vraiment pas longtemps avant le meurtre. Que Marie-Josèphe, là, tu vas la laisser tranquille, puis tu te rappelles plus jamais. Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit exactement.
Ben, ça devait pas être gentil.
Non, c'est ça. Donc, suspect assez intéressant.
Ouais.
Il y a un motif. Les policiers l'interrogent au téléphone parce qu'il était en Nouvelle-Orléans au moment où il l'interrogeait. Fait qu'il dit « Oui, j'étais à New York au moment du meurtre, j'ai essayé d'appeler Marie-Josée la veille, je pense, parce que pour dire que j'étais à New York puis qu'on pourrait se voir, mais finalement, j'ai pas eu le temps de la voir. »
Il fait semblant que c'est sa chum de fille, genre?
Ouais.
OK.
Et il y a plusieurs témoins qui disent l'avoir vu au party au Xénon. Le mercredi soir. Mais lui, il dit que non, il n'est pas allé.
OK.
Et là, il dit, mais j'ai un alibi. J'étais toute la journée avec une femme, une dénommée Jackie Lee, qui est comme son amante secrète depuis plusieurs années, qui voit on and off. Fait que les policiers interrogent Jackie Lee au téléphone, parce qu'elle était elle aussi en Nouvelle-Orléans avec Alain Monpetit. Et elle dit, oui, j'étais avec lui toute la journée, on est resté dans la chambre d'hôtel, on n'est pas sorti.
OK, ça vaut quoi, ça?
Ouais, c'est ça. La libye d'une personne en amour,
ouais.
C'est pas toujours la meilleure affaire. Mais elle passe. Donc, l'enquête stagne. Pendant ce temps au Québec, les parents de Marie-Josée essaient de réapprendre à vivre sans leur fille adorée. Mais son père, Guy, il s'en est jamais vraiment remis. Après le meurtre, il est sombré dans une profonde dépression. Il a été hospitalisé. Il a reçu des traitements aux électrochocs. Son fils, il dit, tu sais, on dirait, après un traitement, on dirait que ça a aidé un peu, ça l'a comme mis sur un high. Puis là, après ça, il y a eu un autre traitement, puis on dirait que ça l'a juste remis sur un down. Donc, le 8 juin 1984, donc presque 2 ans après la mort de Marie-Josée, il était dans un appartement de Ville-Saint-Laurent avec Jean-Luc, son fils. Et ce matin-là, Jean-Luc, il dit, on a beaucoup jasé, puis mon père, il m'a comme donné plein de conseils de vie. Ensuite, Jean-Luc est parti prendre sa douche. Puis quand il prenait sa douche, il avait l'habitude de tout le temps laisser la porte ouverte. Fait qu'il est dans la douche, puis là, il voit son père passer puis se diriger vers le balcon. Tout de suite, il y a eu un mauvais
feeling. Oh my God.
Il est sorti de la douche, mais trop tard.
Oh.
Guy Saint-Antoine, 60 ans, venait de sauter du balcon de son appartement du 11e étage pour s'enlever la vie. Ouais, c'est fucking triste.
Oh my God.
Pauvre papa, qui s'en est juste jamais remis de la mort de sa petite fille.
Aïe, aïe.
Apparemment qu'il était vraiment proche, tu sais. Elle aimait fou son papa.
Évidemment.
Ouais.
OK.
Ouais.
Avant qu'il puisse mettre la main en plus sur...
Sur le meurtrier.
Le meurtrier.
Ouais. Apparemment qu'il était malade aussi, comme dans le documentaire. Mani, ils disent comme, ah, il avait commencé à être malade à cette époque-là, mais je sais pas de quelle maladie il parle. Fait que, tu sais, Ça se peut aussi qu'il y avait une maladie terminale ou, tu sais, genre un cancer. Ah,
OK.
Genre, j'avais comme l'impression que c'était ça, mais j'ai pas trouvé de détails. Okay. Ils font juste le mentionner dans le documentaire. Fait que peut-être qu'il y avait ça aussi qui pesait dans la balance, là, genre.
Mm-hmm.
Peut-être qu'il y avait un cancer puis qu'il allait souffrir dans les prochaines années. Tu sais, je sais pas.
Ouais.
Donc, le temps passe. Mais les soupçons sur Alain Monpetit ne faiblissent pas. Il s'est pas aidé en racontant à plusieurs personnes qu'il était en Europe au moment du meurtre. Mais
il a confirmé au policier qu'il était en
New York. Mais c'est ça. Puis il y a Jean-Luc qui a dit qu'il était à New York. C'est comme... Fait que finalement, les gens, ils apprennent que c'est un mensonge puis qu'il était à New York. Puis même qu'un ami d'Alain, qui est un autre animateur de Radio Vedette, nommé Douglas Léopold, il l'accuse direct en onde...
En onde?
Du meurtre de Marie-Josée.
Non.
Il dit, c'est lui. Non.
Hein?
Fait que Alain Monpetit, il poursuit Léopold pour diffamation.
Mm-hmm.
Finalement, il conclut une entente à l'amiable. Mais Douglas Léopold n'est pas le seul à l'accuser publiquement. Il y a Claude Poirier aussi, qui était là justement quand il avait appelé, genre le lendemain. Puis lui aussi, Claude Poirier aussi, il est convaincu que c'est lui. Puis il dit, puis hein, il n'est pas gêné, Claude Poirier. Ouais.
Puis... Poursuis-moi donc.
Ouais, c'est ça.
Inc. Power.
Pour ce qui est de Jackie Lee, ben, Alain, il a continué à la voir on and off, mais éventuellement, son attitude envers elle a changé. Puis à un moment donné, il dit qu'il veut reprendre avec son ex-femme, qui était la mère de ses deux enfants. Il y avait deux enfants, Alain, mon petit.
OK.
Puis il veut arrêter de consommer. Donc, Jackie est une mauvaise influence parce qu'elle consomme. Puis il lui a dit, je ne peux pas être avec toi si je suis à jeun.
Voilà. OK.
Pauvre.
Ouch.
Fait, pauvre Jackie, elle l'aimait vraiment. Là, fait qu'elle est comme vraiment triste, hyper de contact.
Je t'aime juste quand je suis droguée aussi.
Ouais, c'est vraiment chien.
Puis elle a le couvert en plus avec un alibi puis tout.
Ouais. Mais là, Alain la recontacte en 1987, donc 5 ans après le meurtre.
Crime, ça passe le temps.
Ouais. Et il dit qu'il veut la voir parce qu'il l'aime. Puis juste dire ça, c'était comme vraiment inusité de sa part. Là. Je pense que c'était pas du genre à dire
«
je t'aime ». Fait que, puis il la recontacte à un moment où il était vraiment dans une mauvaise phase encore. Tu sais, il avait arrêté un peu de consommer, mais là, à un moment donné, il a recommencé. Puis à un point où ça nuisait à sa carrière. Là. Genre, apparemment, un matin, en onde à la radio, il est tout croche, il raconte n'importe quoi. Fait que genre, après son boss, qui était aussi son ami, il dit « viens dans mon bureau ». Puis il dit là, Alain, il faut que tu arrêtes de consommer, sinon c'est fini. Mm-hmm. Sinon tu peux plus travailler avec nous. T'sais. Puis qu'Alain est en tabarnak, il brise des choses.
Imagine aujourd'hui comment ça se pourrait juste pas. Il aurait coupé en ondes.
Genre.
Tu t'en viens ici, mon chum. Il l'aurait juste même pas mis en ondes.
Mm.
Là-bas, ils l'ont laissé finir son chiffre.
Ça n'a pas de sens. Mais là, pas longtemps après, Alain dit « OK, c'est bon, je m'engage à aller faire une cure de désintox. »
En Europe.
En Europe.
Qui n'est jamais allé.
Non. Donc, en juin 1987, 4 jours avant son séjour prévu en désintox, il donne rendez-vous à Jackie Lee dans un hôtel de Washington pour raviver la flamme. Jackie Lee se rend au rendez-vous dans la chambre d'hôtel réservée par Alain, puis elle attend. Elle attend. Elle attend toute la nuit. Mais Alain ne se pointe pas. Le lendemain, 10 juin 1987, Alain Monpetit, 36 ans, est retrouvé mort dans une autre chambre d'hôtel de Washington.
Le même hôtel?
Non, un autre hôtel.
Un autre hôtel.
Il avait booké une autre chambre dans un autre hôtel. Il est allé au bar. Il a commandé un martini. Il est monté à sa chambre. Il a commandé un autre martini en service aux chambres. Et... le lendemain, c'est la femme de chambre qui l'a retrouvé mort dans son lit. L'autopsie révèle qu'il a sniffé 7 grammes de cocaïne coupée avec de la morphine.
Ben, voyons donc.
Ouais.
Hey, c'est une solide overdose, celle-là.
Ouais, j'avoue que j'étais tellement poche en cocaïne, mais...
Je suis pas une experte, mais ça me semble beaucoup de cocaïne.
Ça me semblait beaucoup aussi, ouais. Hey?
Avec de la morphine. OK. Ouais. Tu peux sniffer de la morphine. Tu peux pas sniffer de la morphine.
Ben, c'était comme, tu sais, ça dit laced with.
Ça donne un buzz.
Laced with morphine, là, genre coupé avec la morphine. Je sais pas.
Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais. L'écraser en même temps. Puis...
Ouais.
Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Hein?
Ça enlève la douleur. Je sais pas.
Mais pourquoi il était dans un autre hôtel puis il a donné rendez-vous dans un autre hôtel à...
Je sais pas. C'est... Personne ne saura jamais là, ce qui s'est passé dans sa tête cette soirée-là.
OK. OK, on a pas un peu plus d'informations que ça.
Ben, sur pourquoi il a booké cet hôtel.
Ouais, on ne saura pas.
Non. T'sais, peut-être qu'il voulait comme aller dire quelque chose à Jackie, mais finalement, il est juste choqué. Je sais pas.
OK.
Donc, Paul Charbonneau, son ex qui était l'ami de Marie-Josée, elle, quand elle a appris le dessin de Alain, le décès de Alain, elle a comme été surprise de se rendre compte qu'elle n'était pas triste, elle était soulagée.
Ouais.
Elle a dit qu'elle a comme toujours eu peur qu'il revienne la stalker ou genre, tu sais, comme, on te regarde tout le temps regarder derrière son épaule.
Feeling.
Ouais. Fait que ça l'a comme soulagé. Mais bon, là, ça va mal pour la police. Leurs suspects importants viennent de mourir. Fait que l'enquête va se retrouver dans la section des cold cases.
Mm.
Jusqu'à ce que, 20 ans plus tard, l'enquête soit réouverte. En 2002, les policiers du NYPD se mettent, rouvrent le cold case et se mettent à réinterroger tous les témoins importants.
Juste random comme ça?
Ben, ils ont décidé de rouvrir l'enquête. Je pense que... Il me semble que c'était Jean-Luc qui avait recontacté le NYPD, puis il avait dit, est-ce que le dossier de ma soeur, c'est toujours actif? Puis là, l'enquêteur qui était là, il a comme regardé rapidement le dossier, puis il était comme, ah, je pense qu'il y a de quoi à travailler. Genre, ouais, c'est bon, on le remet dans l'autre, t'sais. Fait que, ils se remettent là-dessus, puis là, justement, ce détective-là, le détective Baraccini, il dit que, des fois, c'est pratique des vieux cas, des cold cases, parce que, tu sais, les enquêteurs, ils savent exactement ce que les gens leur ont dit il y a 20 ans. Mm-hmm. C'est tout écrit. Mais les gens, s'ils ont menti,
ils s'en rappellent pas.
Je suis comme, ah, c'est quand même... J'avais pas pensé à ça, mais...
C'est vrai.
Ouais. Donc, entre les branches... Les détectives se font dire que Alain Monpetit aurait confessé le meurtre de Marie-Josée à deux personnes, à Sophie Stanké et Paul Charbonneau. Donc, ils commencent par aller voir la chanteuse Sophie Stanké, qui était une ex de Alain. Et Sophie Stanké raconte aux enquêteurs qu'Alain l'avait stalkée après qu'elle l'avait laissée.
Classique.
Gros red flag. Puis elle a dit que quelques temps après la mort de Marie-Josée, Alain est venu la voir pour la convaincre de reprendre leur relation. Puis Stanké, elle n'était pas intéressée, fait qu'elle l'a plutôt confrontée sur le meurtre. Puis elle lui a demandé, est-ce que c'est toi le meurtrier? Est-ce que c'est toi qui as tué Marie-Josée? Ouais, elle lui a demandé carrément. Puis il a pas nié, puis il s'est juste mis à pleurer.
OK.
Puis elle lui a dit, tu l'as vu quand tu étais à New York? Tu l'as vu, puis il pleurait, puis il disait, je sais qui a fait ça, je sais qui a fait ça. Puis elle a redemandé clairement, est-ce que c'est toi qui l'as tué? Puis là, il a arrêté de pleurer. Il l'a regardé. Puis sans dire un mot, il s'est levé, puis il est parti. Puis elle l'a jamais revu.
OK. Puis ça, est-ce qu'elle l'avait raconté aux policiers à l'époque?
Non.
OK.
C'est ça. Fait que 20 ans plus tard, c'est la première fois qu'elle dit ça aux policiers.
Aïe.
Après ça, les policiers vont voir Paul Charbonneau, qui serait la raison du meurtre parce que Marie-Josée l'avait encouragé à laisser Alain. Mais Paul a dit que non, qu'Alain, il s'est jamais confessé à elle. On dit que c'est pas vrai. Mais elle raconte d'autres choses intéressantes. Elle dit que 3 jours avant le meurtre, Alain, il l'appelle à 9h le soir. Puis il dit qu'il était à Madrid pour... refaire sa vie.
OK.
Paul est comme, attends, il est 9h ici, fait que genre 3h du matin à Madrid, pourquoi tu m'appelles? Bon, pas clair.
Il était à New York de 1.
Ben, non, il était à Montréal.
Ah, il était à Montréal?
Ouais, il était pas à Madrid.
OK.
Fait que par j'en sors. Puis là, Alain, il demande, ton amie Marie, tu sais, elle fait quoi et où? Puis Paul, là, il a dit, à toi à New York, là, tu sais, elle a un gros événement cette semaine, nanana, pour son agence. Puis là, genre le lendemain, il se pointe à New York.
Prémédité en plus?
Ben.
Ah non, pas tant.
Je sais pas. Probablement qu'il voulait aller lui parler.
Mm.
Je sais pas c'est quoi son plan. On saura jamais.
On saura jamais. Ouais.
Mais bref, il y a eu cette information-là. Puis genre, le lendemain, il y a booké un vol.
Puis ça, encore une fois, à l'époque, elle l'avait pas dit aux policiers. C'est non. Une nouvelle information.
Ouais.
Mais pourquoi?
Je sais pas.
Ou au moins, quand t'apprends que le gars, il est mort, tu sais, ouais. Il va voir les autorités. Tu sais, quand ils disent, là, si vous avez toute information pertinente, mm-hmm. appelez-nous, écrivez à telle adresse, ouais. contactez telle personne. C'est genre ça.
Ouais. C'est ça. Même si, tu sais, c'est ça. Peut-être que dans sa tête, ah, c'était pas important. Ou, tu sais, peut-être qu'elle y a pas repensé avant un bout aussi. Tu sais, je sais pas.
Ouais. Mm.
Puis, tu sais, d'un côté, tu veux pas y croire que c'est lui, tu sais.
Ouais. Mm. Ben, c'est ton ex.
Mm. Mais là, il reste l'alibi principal, Jackie Lee. Fait que les policiers, ils s'en vont la retrouver, puis ils l'interrogent à nouveau, en personne cette fois-ci. Parce qu'on se rappelle la dernière fois, c'était juste au téléphone. Hein.
Facile au téléphone de dire n'importe quoi.
Mmh. Avec genre Alain à côté qui l'a.
Uh-huh.
Fait que là, cette fois, l'histoire est différente. Elle dit que, ben, pas longtemps avant le meurtre, Alain lui avait proposé de déménager ensemble en Nouvelle-Orléans. Puis, parce qu'il voulait écrire, il voulait devenir écrivain, genre. Puis finalement, ils sont restés genre 2 semaines en Nouvelle-Orléans, puis après, il est parti à Montréal. Puis elle est restée là, genre.
C'est vraiment le genre d'idée que t'as sur la brosse, genre. Ouais. Comme, on déménage en Nouvelle-Orléans. OK!
OK! Mais bon, elle est comme, OK, go, on fait ça. Donc, c'est là qu'Alain, il a acheté des billets d'avion pour aller en Nouvelle-Orléans. Mais ils ont une escale à New York de 2-3 jours.
Ah!
Tu sais, une escale normale de 3 jours.
C'est pas 3 jours.
Tu sais, c'est genre 2 billets séparés, là, en
Ouais, c'est ça. C'est pas une escale.
Non. Puis, elle dit que les deux sont allés au Xénon la veille du meurtre.
Elle confirme.
Comme l'avaient rapporté plusieurs témoins. Puis, tu sais, ils ont vu Marie-Josée, mais je pense qu'ils n'ont pas parlé.
Mais là, ça demande de toute façon qu'est-ce qu'elle avait dit qui était resté à l'hôtel. Ah oh, non, c'était le jour d'après ouais. qu'il était à l'hôtel.
Ouais.
OK, excuse.
Puis, ensuite, justement, elle avoue que la journée du meurtre, c'est pas vrai qu'il était là tout le long. Donc, ils ont dîné avec une de ses amies à elle. Puis, après le dîner, Alain est parti tout seul. Pendant plusieurs heures. Puis, quand il est revenu à l'hôtel en soirée, il y avait des taches de sang sur sa veste jaune. Ouais.
Elle couvrait parce qu'elle était en amour avec lui? Ouais.
100%.
Arc.
Ouais. Fait que, puis, il aurait demandé, genre, si la police te contacte, dit qu'on était ensemble toute la journée. Il a demandé, clairement.
Mm-hmm, ben oui.
Ouais. Fait que ça y est, pour les policiers,
ah ouais.
C'était le break qu'ils attendaient. Ils sont convaincus que c'était Alain, mais ils peuvent pas l'accuser formellement parce qu'il est mort. Donc, les enquêteurs remplissent une requête de conclusion exceptionnelle pour demander de fermer l'enquête.
Mm-hmm.
Parce qu'ils sont comme, s'il était en vie, il serait amené en cour pour le juger. Fait qu'ils ont fait, ils ont rempli tout ça avec toutes les preuves circonstancielles.
Mm-hmm.
Et le district attorney, il a accepté de fermer le dossier. Donc, selon le NYPD, le dossier, le meurtre de Marie-Josée est résolu.
La famille a quand même conclusion. Oui, c'est quand plate même. Pour le père, par exemple.
Oui. Donc, mais tu sais, il y en a beaucoup qui remettent ça en question. Tu sais, les amis d'Alain qui sont comme, ben non, ça peut pas être lui. Non, mais tu sais, je suis sûre qu'ils n'ont pas lu le dossier de police au complet.
C'est
là. C'est ça. Qui changerait d'avis en apprenant.
Tu sais, les amis, c'est quel genre d'amis aussi, tu sais, dans le domaine de la consommation puis du party puis tout. Je sais pas.
Ouais, tu sais, ils connaissaient une facette de Alain, mais bon, c'est pas toute, là. Donc voilà, l'histoire de Marie-Josée Saint-Antoine qui, malheureusement, était connue, plus connue après sa mort. Avant. C'est comme au Québec.
Ben, elle a quand même eu. Ouais.
Mais c'est ça, au Québec, genre, c'est comme après sa mort qu'on s'est rendu compte qu'on avait une top modèle
québécoise
à l'international. Puis c'est ça, son frère Jean-Luc, il dit je voudrais qu'on se rappelle de Marie-Josée comme une des premières top modèles québécoises. Puis je voudrais qu'on soit fiers d'elle et de ce qu'elle a accompli en peu de temps.
Aïe, aïe.
Ouais. Fucked up, hein?
C'est-à-dire que lui, là, il est débarqué chez elle. Sûrement qu'il voulait chiller avec, je sais pas quoi. Ils se sont chicanés ou je sais pas, puis il s'est emporté, puis voilà.
Ouais, c'est ça la théorie.
Il était sûrement pas à jeun.
Ouais, Probablement
parce
pas.
Parce que j'ai de la misère à m'imaginer qu'il est parti de l'hôtel avec sa copine dans le but d'aller tuer Marie-Josée.
Non, c'est ça. Je pense pas que c'est
ça
son
but. Ça
n'a
pas de sens.
Puis, en fait, c'est sûr que c'est lui que Kim Delaney a vu. C'est qu'il a croisé dans la rue. C'était sûr que c'est lui. Fait que, tu sais, ça veut dire que
ah, c'est vrai. Mais il a pas présenté.
Non, il a pas présenté. Mais justement, le portrait robot, il ressemblait à... Ça, j'ai oublié de dire. À Alain Bonpetit et à Jamie Gillis. Il ressemblait aux deux. Mais, tu sais, ça peut vraiment être Alain Bonpetit. Puis, c'est ça, tu sais, les policiers, ils ont vu que de l'hôtel où il était, il a appelé Marie-Josée quelques fois. Fait que, tu sais, ils se sont parlé. Fait que, probablement que c'était donné rendez-vous en ville, genre, hey, on va jaser, nanana, puis qu'elle est retournée avec lui à l'appartement, qu'ils ont parlé, puis ouais, il est devenu fou. C'est ça, la théorie. Puis qu'il aurait mis les souliers blancs après, parce qu'il sentait mal.
Ah, yeah, ça n'a aucun sens, cette histoire-là.
Puis il pouvait pas vivre avec ça. Fait non. Il s'est suicidé. Mais sans confesser, il aurait pu mettre une petite note, quelque chose.
Aïe, tout qui ne soit.
Ouais, hein? J'étais tombée par hasard sur Crave là-dessus. Puis c'est genre 3 épisodes, là, c'est quand même long.
OK.
Ouais. Mais c'est intéressant, là. Tu sais, il parle un peu ça, du Montréal, des discos, puis genre du monde de mannequins, puis le, tu sais, comme une époque qu'on a
aussi
pas connue.
C'est la capitale de la drogue et du jeu, et des casinos illégaux, puis de la prostitution. C'est la grosse fiesta.
Ouais.
OK.
Voilà. Alors...
J'espère qu'on n'a pas trop entendu mon ventre qui gargouille.
je l'ai entendu...
Tu l'as entendu tantôt?
La dernière fois, ouais.
Désolée.
Vous nous direz si vous avez entendu le ventre de
ma gargouille. Ah, c'est dégueu. Désolée. J'ai vraiment faim. J'ai pas mal.
On va aller manger. OK. Alors, merci Binku d'avoir été à l'écoute et...
Passez une bonne semaine.
Yes!
J'ai fait un jeu de mots.
Bravo, mère.
Merci.
Je suis bien fière de toi.
OK, arrête.
OK. OK, bye!
Bye!
Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku! Bye!
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.